franceinter.fr. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Pascal Pic.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférence au Collège de France. Vous publiez chez Odile Jacob « Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots ?» Un livre où vous ne cessez de jeter des ponts entre le comportement des singes et celui des hommes, et en particulier celui des hommes politiques. C'est comme ça que vous avez regardé la campagne électorale comme le bébé de show ?
Ah ben bête chaud, non, parce que les singes sont pas des bêtes au sens où on l'entend le plus souvent, pas plus que les autres espèces d'ailleurs. Il s'agit pas de caricature, mais de regarder un petit les comportements. Très clairement, on a beaucoup de discussions, de commentaires sur l'absence de débat sur les programmes que veulent faire tel ou tel candidat politique. Et à partir du moment où on n'a pas d'accès au discours et à de réels éléments de discussion dans les échanges sur ce qu'on veut faire, ce qui va dominer, c'est le comportement, donc l'éthologie. Alors on connaît beaucoup de choses sur les mimiques, les attitudes, etc. Mais d'un point de vue, il y a deux choses que peut apporter, je pense, l'anthropologue évolutionniste. Premièrement, les éléments de changement. À l'issue des primaires de la gauche et de la droite, lorsqu'ont été désignés respectivement Monsieur Hamon et Monsieur Fillon, c'était quand même une bipolarisation assez importante qui était caractérisée sur les fondamentaux respectifs de la gauche et de la droite. Et ça, d'un point de vue de l'évolution des populations, c'est un signe d'un changement d'adaptation, donc de société. Et le premier tour a confirmé cela, parce que les scores de M. Mélenchon et de Mme Le Pen ont accentué cette polarisation.
Oui.
Donc ça, c'est un signe universel de changement qui montre qu'aujourd'hui, les réponses droite-gauche classiques, et il n'y en a pas celles qu'on attend ne sont toujours pas exprimées, sont là. Et c'est à l'échelle du monde, c'est-à-dire le Brexit, Trump, etc. Maintenant, s'il n'y a pas de discussion très claire sur les programmes, sur les idées et sur les enjeux, qu'est-ce qui va dominer? Eh bien, les choix, notamment chez les indécis, parce que les indécis, par définition, c'est des gens qui vont pas se dire est-ce que je d'un côté ou de l'autre, par définition, ils sont comme cela. Et ce qui va prévaloir, c'est la personnalité, les comportements des individus.
Les comportements, par exemple, ceux du débat de mercredi, vous avez regardé avec un œil d'éthologue, les postures des deux candidats lors du débat télévisé désigné un vainqueur. Le vainqueur.
De manière très claire. Alors, je vais revenir sur le débat plus ancien, celui entre Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy. Si vous le regardez sans le son, c'est absolument extraordinaire. Vous verrez assez vite qui va gagner la présidentielle.
Ah bon?
Ben oui, parce que vous en avez un qui se tient bien droit, qui encaisse les coups, qui ne s'énerve pas, qui n'est pas dans la recherche de ses fiches et de ses notes. Et l'autre, petit à petit, n'arrivant pas à déstabiliser son adversaire, on voit son corps qui se penche, on voit que les gestes deviennent de plus en plus saccadés. Et au bout d'un moment, et là c'est catastrophique, c'est la recherche d'un soutien autour de soi. Donc le regard qui commence à tourner de tous les côtés, on n'est plus fixé sur son contradicteur. Et à partir de là, on voit, on touche ses cheveux, on commence à tripoter ses notes. Vous voyez s'installer une sorte d'instabilité qui se traduit par le sentiment de fébrilité. Et celui qui reste dans la posture, voilà, je vous réponds, vous m'attaquez, j'évite de me pencher en avant, et celui qui certainement, dans ce cas-là, sortira vainqueur, ou celle qui sortira vainqueur.
C'est ce qu'on a vu mercredi. Beaucoup de Français jugent ainsi au comportement, ils regardent l'image sans écouter le son, Pascal Pic?
Mais bien sûr, parce qu'effectivement, ce sont des éléments qu'on partage avec les grands singes. Lorsqu'on va observer des sociétés de chimpanzés, il y a que deux espèces qui font vraiment de la politique, les hommes et les chimpanzés. À partir de là, vous regardez les comportements, c'est absolument extraordinaire. Si un chimpanzé était devant notre télévision, il ne comprendrait pas le discours, c'est une évidence. Par contre, il comprendrait ses comportements. Et c'est pour ça qu'on est capable de détecter chez différentes espèces, notamment chez les chimpanzés, différents types de leadership comme chez nous. Donc on a des tyrans, des dominants, des magnanimes, ceux qui sont prêts au compromis, voilà. Et ces personnalités ne s'expriment pas par les programmes ni les idées, mais par leurs attitudes.
Vous comparez les techniques de conquête du pouvoir, les intrigues, l'usage de la violence, la place accordée aux femmes, les privilèges. Par exemple, les chimpanzés acceptent que les puissants aient des privilèges ou des entorses à la règle commune?
Mais absolument. Dans toutes les sociétés humaines, d'ailleurs, c'était très bien décrit par Claude Lévi-Strauss et les anthropologues, mais aussi dans les sociétés de chimpanzés, en général, quand on accepte un leader ou une leader, on consent, ça s'appelle le consentement, à ce qu'ils aient quelques privilèges. Mais tant qu'ils remplissent ce contrat, tant qu'ils ont un bon exercice du pouvoir, plus ou moins magnanime, qui oriente le groupe. À partir du moment où ce contrat tacite n'est pas respecté, là, on va commencer à regarder les aspects de moralisme. Mmh. Regardez, c'était intéressant, là, la première conférence de presse pour se justifier de la part de Monsieur Fillon. Mmh. Il a très bien dit, on a changé de système. Ce qui était acceptable à un moment ne l'est plus. Donc, ce qui était moral à un moment rompt avec une éthique nouvelle.
Ben voilà.
Et c'est très intéressant, parce que là, il n'y avait plus de consentement par rapport à l'attitude du personnage dans son pouvoir. Ce qui était accepté à un moment donné ne l'est plus dans une autre circonstance.
Ben, c'est peut-être ça la différence avec les singes, c'est que les hommes sont doués d'une conscience politique qui leur fait contester d'une certaine façon l'accroissement des inégalités, ou qui rend les inégalités de moins en moins acceptable, non, Pascal?
Ah non, il y a aussi des abus de pouvoir, des choses qui sont pas acceptées au bout d'un moment. Il y a des coups d'état chez les chimpanzés, il y a des changements de coalition, donc c'est plus doux. Et on a des exemples que je décris par rapport à cela. Alors je vous donne un exemple, si j'en ai le temps, qui est très rigolo, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est les universaux. Cherche pas à savoir si telle espèce de chimpanzé ou telle espèce de singe est plus proche de l'homme ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est les comportements donc généraux qui nous unissent par notre évolution commune. Je décris ce cas d'un chimpanzé qui s'appelait Mac, qui a été décrit par Jane Goodall, la grande Jane Goodall, qui donc a apporté une telle contribution sur l'étude des sociétés de singes, donc en Tanzanie. Et là, il y a deux groupes, vous allez comprendre où je veux en venir. Il y avait deux groupes dominants. Ils n'arrivaient pas à s'entendre. Il y avait des alternances constantes, parce que les groupes étaient très équilibrés. Et Mac, lui, ne fait pas partie d'un groupe dominant. Et il est très futé et il s'aperçoit que lorsque les chercheurs refont le plein des Land Rover avec des jerrycans donc en acier, ça fait du bruit, les chimpanzés ont peur. Et que fait Mac? Lui qui n'est pas soutenu par un clan ni d'un côté ni de l'autre, il arrive avec deux bidons dans l'eau et il menace donc les leaders de chaque camp. Alors tout le monde rigole en disant, ben c'est Mac, franchement, qu'est-ce qu'il vient faire là? Et d'un seul coup, il prend les deux bidons, il s'en sert comme de monstrueuses castagnettes, et ça fait peur à tout le monde. Et donc il va prendre le pouvoir, mais en plus il va rester longtemps, parce qu'en fait ça arrange tout le monde. C'est comme comme dans Shakespeare, entre les Capulet et les autres, eh bien, on n'arrive pas à s'entendre. Donc du coup, lui, il va faire l'objet d'un compromis intéressant qui permet la paix entre ces deux groupes qui, jusqu'à présent, dans la tendance, n'arrivaient pas à dominer. Bon, vous cherchez l'allusion comme vous voulez, mais voilà, c'est assez universel.
C'est très bien, mais je ne pensais pas qu'on pourrait aller jusque pousser les comparaisons jusque-là et regarder les primaires à travers les primates. Question avant la revue de presse, Pascal Pic, question à l'intellectuel et universitaire. Vous avez suivi la campagne attentivement de près, vous en êtes sorti assez consterné par... les enjeux qui en étaient absents, les grands enjeux.
Alors, deux choses, c'est qu'effectivement, les grands enjeux n'ont pas été discutés. Je suis paléanthropologue, je vous l'accorde, mais je m'intéresse pas qu'aux fossiles, je m'intéresse au changement actuel. Je fais partie, par exemple, de l'Observatoire de l'Ubérisation de la Société. Et à part Benoît Hamon, qui a abordé le sujet de l'allocation universelle et donc le sujet donc autour du travail et de la taxation des robots, aujourd'hui, ce monde est en train de changer à l'échelle mondiale. C'est à l'échelle mondiale qu'on est en train de connaître aujourd'hui, avec les vagues du numérique. Et ces questions-là n'ont pas du tout été abordées. Donc ça m'a complètement consterné. L'erreur de M. Benoît Hamon, me semble-t-il, c'est qu'il a présenté le revenu universel ou l'allocation universelle et la taxation des robots comme une assistante. Une assistance qu'il faudra financer en taxant les robots. Et ça, ça a été une erreur, me semble-t-il. Cette question de l'allocation universelle devra être abordée, effectivement, au travers d'un nouveau projet de société que, pour l'instant, nous attendons même à l'échelle mondiale. Donc, moi, ce qui m'a consterné, c'est que ce monde a changé en 5 ans, le temps d'un quinquennat, donc celui de M. Hollande. Il s'est passé des choses, mais il s'est pas passé de grands bouleversements, comme vous le savez. Et ce qui m'a beaucoup consterné, c'est que nous avons quasiment les mêmes candidats politiques d'un quinquennat à l'autre, à part Monsieur Macron et Monsieur Hamon qui ont émergé, donc, et avec les mêmes idées. Donc on essaie de répondre, je vais être un peu brutal, on essaie de répondre aux enjeux de société, du travail, de redistribution et de richesse, avec des éléments de réponse à gauche et à droite qui datent de la première, je vais être gentil, de la deuxième révolution industrielle, alors que nous sommes déjà dans la quatrième, avec des bouleversements qui sont connus dans le monde du travail, de la redistribution des richesses, etc. Si ça vous intéresse, je vous citerai une étude de MIT qui montre comment nos sociétés ont changé, et ceci n'est pas du tout exprimé à travers les différents candidats, et je dis bien tous.
Pascal Pic qui va prendre le pouvoir chez Odile Jacob. Il y a quand même des bouleversements politiques récents dont on pourra parler tout à l'heure dans la deuxième partie de cet entretien, comme l'élection de Donald Trump aux États-Unis et le Brexit, qui vous font penser là à des tests d'éthologues, le jeu de l'ultimatum avec lequel vous pouvez regarder les comportements humains, et on en reparlera tout à l'heure. Pascal Pic, si vous le voulez bien.